Chapitre 33. Anna. Je lance mollement quelques requêtes Google sur Hansen. Je ne sais pas ce que je cherche exactement, mais sa réaction aux questions de Diego il y a quelques instants a fait écho avec l'étrangeté de son attitude à notre sortie de la grotte. Mélange de fureur, d'émotions palpables et d'évocations floues de souvenirs de sa propre sélection. Depuis le début de cette aventure, un parfum de danger émane de Ted, à cause de ses accusations de harcèlement sexuel dans les années 80. Alors je ne peux m'empêcher de penser que les racines sont peut-être à aller chercher autour de cette sélection. Ted a-t-il agressé d'autres femmes quelques années plus tôt? Après un bon quart d'heure, je n'ai rien trouvé de bien intéressant et je m'endors à moitié. Il faut dire que nous sommes au beau milieu d'une nuit glaciale, sur une autoroute allemande déserte, bercé par le ronronnement régulier du moteur et par le chauffage. C'est tout de même incroyable à quel point ce mec est une star. Le web est truffé de photos de Ted en combinaison spatiale, Ted dans l'espace, Ted avec plusieurs présidents des États-Unis, Ted invité des Emmy Awards, Ted avec Oprah Winfrey. La requête Ted Hansen Sélection 1975 ne donne rien d'autre que des pages type Wikipédia, son portrait officiel sur le site de la NASA et d'innombrables articles de presse reprenant toujours les mêmes informations minimalistes. Je m'apprête à renoncer lorsqu'à la 7e page de résultats, Google m'oriente vers une archive de journal local, le Houston Post. Dans cet article, une photo où figurent les 12 derniers candidats astronautes de la promotion NASA 1975. La chevelure touffue et frisée d'Hansen, qui est aujourd'hui complètement chauve, m'amuse. Alors je zoome. Mon cœur manque un battement. L'espace d'un instant, je crois devenir folle. Je prends une grande inspiration, puis je zoome encore. Pas sur Hansen, non. Sur cette jeune femme qui se tient debout juste à côté de Ted. Sur ce cliché noir et blanc sobrement légendé, les candidats arrivent au siège de la NASA le 23 janvier 1975. Cette jeune femme qui me ressemble furieusement. Ma respiration s'accélère. J'ai du mal à reprendre mon souffle. Mon Dieu, c'est impossible. Et pourtant, je lis l'article et elle est là. Julie Smith de Villers. Ma mère. J'ai l'impression que mon cœur va sortir de ma poitrine. Tout se mélange dans ma tête. La présence de Ted à Hambourg le jour de ma convocation, et maintenant ma mère à ses côtés sur une photo de 1975. Il n'y a pas de hasard, tout est lié forcément. Notre ressemblance est si forte. Ted ne peut pas ignorer que je suis sa fille. Alors pourquoi n'a-t-il jamais évoqué le souvenir de Julie? Ce n'est pas normal. Pas normal du tout. J'éteins mon téléphone, essayant de réfléchir à ce que je viens de découvrir, mais je sens un malaise indescriptible monter en moi. J'ai besoin de sortir de cette voiture. Tout ce que je pensais savoir sur ma mère vient de s'effondrer, tel un château de cartes. J'ai besoin d'appeler mon père pour lui crier ma colère, comprendre pourquoi il m'a menti toutes ces années. Féru d'astrologie, tu parles! Pour être sur cette photo, ma mère était forcément une grande scientifique, pas une simple passionnée d'ésotérisme. J'ai besoin de parler de ma découverte à Diego. J'ai besoin de m'éloigner d'Hansen, ou bien de lui serrer la gorge, de le priver d'air jusqu'à ce qu'il m'explique sa présence à côté de ma mère sur cette photo d'archive, et toutes ces coïncidences qui n'en sont pas. Et soudain, la peur qui tord le bide. Le mail d'avertissement. Les accusations contre Ted. Ted est-il dangereux? Que cherche-t-il exactement? Si je me mets à hurler dans ce van qu'il conduit, qui me dit qu'il ne va pas nous balancer dans le décor? Respire, Anna. Calme-toi, essaie de ne rien laisser paraître, et fuis aussi vite, aussi loin que tu peux. Ted, s'il vous plaît, je me sens pas bien, je crois que je vais vomir. Est-ce qu'on peut s'arrêter à la prochaine aire? J'ai besoin de respirer et de marcher un peu. Ce jour-là, je suis épuisée, mais fière du chemin parcouru. Pour l'heure, je dois rester concentrée. L'épreuve dite de sang-froid est particulièrement difficile. Nous allons devoir gérer une situation critique dont nous ignorons tout et la gérer deux par deux. À l'issue de cette épreuve, 50% des candidats seront sélectionnés pour le dernier entretien, celui avec le directeur général. La fin n'a jamais été aussi proche. Le destin m'a joué un tour particulièrement cruel. La candidate à laquelle je fais face dans cette épreuve, c'est toi, Julie. Toi que j'avais repéré dès le début. Toi dont je suis tombé amoureux au fil des semaines. Je sais bien que ce n'est pas réciproque, mais je ne perds pas espoir. Pour autant, tu sais comme moi que je ne laisserai pas mes sentiments m'envahir. C'est terrible à dire, mais je ferai tout pour gagner. Nous devrons collaborer, trouver la meilleure solution pour sortir de l'ornière, mais en théorie, un seul de nous deux continuera l'aventure à l'issue de l'épreuve. Ceci dit, étant donné la qualité des candidats encore en lice, si l'une des paires imposées montre des aptitudes exceptionnelles, nous sommes tous convaincus que les deux candidats pourraient être sauvés. Ce ne serait pas la première fois que les règles énoncées sont modifiées en cours de jeu, cela fait également partie de la sélection. S'adapter à des règles mouvantes ou bien inciter à l'échanger par son comportement. C'est comme cela que toi et moi abordons l'épreuve. En collaborateur bien décidé à faire en sorte que chacun tire son épingle du jeu. Au fil des étapes, j'ai passé de plus en plus de temps avec toi. Appris à te connaître, même si tu restes très discrète, très secrète. Tout ce que je sais de toi, ce sont tes études, ta situation familiale, qui me rend la tâche de séduction bien plus complexe que je ne le pensais, et le quotidien que nous partageons entre candidats finalistes depuis plusieurs mois. Suffisamment pour être dingue de toi, de ta douceur, de la poésie de tes gestes, de ton esprit aussi vif que pragmatique, de ta fantaisie aussi. Tu es capable de te mettre à chanter à tue-tête, d'éclater de rire toute seule ou au contraire, de t'extraire du monde qui s'agite autour et de paraître ailleurs. Je pense que dans un autre contexte, dans une autre époque, on te qualifierait sans doute de dérangé. Je te crois simplement d'une intelligence particulière, différente. Et c'est sans doute cette différence qui m'attire. Tu ne m'as rien promis. Et chaque fois que j'ai tenté de t'approcher physiquement, tu t'es dérobé. Tu as d'ailleurs été très claire. Tu m'as dit aimer ta famille, ta petite Anna et ton Frenchie dont je suis jaloux à crever. Et tu affirmes qu'il en sera toujours ainsi. Je ne peux pas m'empêcher de garder espoir. La vie d'un astronaute est une vie en vase clos, au sein de laquelle les proches sont relégués à l'arrière-plan, du moins au cours des années intensives d'entraînement, celles qui précèdent le premier vol. Dans ce vase clos, qui sait, j'aurai peut-être un jour une carte à jouer. J'attends mon heure. Aujourd'hui, mes sentiments pour toi ne doivent en aucun cas interférer. Je travaillais trop dur pour échouer si près du but. J'ai bien dormi cette nuit, et au réveil, je suis allée courir 5 kilomètres avant de prendre une longue douche suivie d'une séance de relaxation profonde. Je suis calme, serein. Je me sens prêt. Toi et moi avançons dans nos combinaisons d'entraînement. Tu me salues, me souris. Mais tu es aussi concentré que moi, alors je ne dis rien. Nous écoutons les consignes avec toute l'attention nécessaire. L'épreuve s'annonce coriace, et nous sommes les premiers à passer. L'exercice est baptisé « la fuite » et a pour but de simuler une fuite d'oxygène à bord d'une navette spatiale. Le scénario est le suivant. D'ici quelques instants, nous allons être installés et sanglés dans une capsule qui sera plongée dans une piscine. La capsule va soudain prendre l'eau et se remplir rapidement. Nous devrons identifier la source de la fuite et réparer ce qui doit l'être à l'aide des outils à notre disposition tout en appliquant les consignes d'évacuation. Si nous n'y parvenons pas avant que l'eau ne nous engloutisse, nous devrons suivre la dite procédure d'évacuation à la lettre et nous extirper de la cabine. Évidemment, nous n'aurons ni masque ni oxygène et nous porterons notre encombrante combinaison. En cas de problème majeur ou d'urgence vitale, une équipe de plongeurs est là pour nous porter assistance. Il faudra, pour réclamer leur intervention, appuyer sur le bouton rouge du tableau de bord. Par ailleurs, le moindre de nos gestes sera filmé, scruté, décortiqué. Tu me regardes, me souris et me lances un Good luck, partner, qui me trouble. Ce mot anglais, partner, signifie coéquipier, et c'est forcément le sens que tu lui as donné, mais aussi compagnon ou époux. Dois-je y voir un signe? Ton intention n'était sûrement pas de me déconcentrer, mais c'est loupé. Je te laisse entrer en premier, tu t'installes dans le siège de gauche et moi dans l'autre. Nous suivons les consignes, nous attachant solidement avec les harnais de sécurité, vérifiant que tous les voyants sont au vert. Pendant les 4 minutes que dure notre descente sous l'eau, nous tentons de mémoriser la complexe procédure d'évacuation. Le tout est rendu plus difficile encore par le fait que le manuel soit écrit en anglais, tandis que tous les boutons du tableau de bord sont en russe, langue qu'aucun de nous ne parle couramment. Une fois la capsule stabilisée à 4 mètres de profondeur, la fuite d'eau fait son apparition, bientôt suivie d'une deuxième, puis d'une troisième. Un compte à rebours se met en marche et nous indique que d'ici 3 minutes, l'habitacle sera entièrement rempli. C'est beaucoup plus rapide que ce que j'avais imaginé. Nos mollets sont déjà dans l'eau. Il me semble qu'effectuer la réparation va prendre au moins 2 minutes, et la procédure, plus de 3 minutes. C'est toi qui prends la parole, la première. On n'a pas le temps de tout faire à deux. Tu t'occupes de la procédure d'évacuation et je colmate, ok? Ok. Tandis que tu t'actives avec les outils qui nous ont été fournis, 3 nouvelles brèches s'ouvrent et le débit augmente d'un coup. L'eau est désormais au niveau de nos ventres et le chronomètre est ajusté à cette nouvelle donne. Il ne reste que 1 minute. Je repasse mentalement les gestes à effectuer, sous l'eau désormais. Je jette un œil sur ma gauche. Je constate que tu effectues maintenant ta tâche en apnée et je comprends que tu n'as pas vu le nouveau décompte. Je veux te le signaler, mais un jet manque de m'étouffer et je me mets à tousser. L'eau est déjà au niveau de nos épaules. 30 secondes. L'eau atteint le bas de mon visage. Il reste 4 étapes sur les 10 de la procédure d'évacuation. Alors la vérité me percute. Je prends conscience qu'il nous sera impossible de mener à bien cette mission. Et c'était d'ailleurs sans doute prévu ainsi. Quels risques vont prendre ces futurs astronautes avant de constater la vacuité de l'application des règles? Quand vont-ils comprendre qu'il leur faut prioriser leur sécurité et s'extraire de la capsule le plus vite possible, avec ou sans procédure? 20 secondes. Nous prenons une dernière grande inspiration et nous sommes entièrement immergés. Je te fais signe qu'il est temps de sortir, coûte que coûte, tu acquiesces. Il y a une porte de chaque côté. Chacun de nous actionne les leviers d'urgence. J'attends de constater que tu as bien ouvert ta porte avant de me détacher de mes sangles et de me diriger vers le haut. Je ne suis pas très performant en matière d'apnée. Je sais qu'en plein effort, je ne tiens pas plus d'une minute. Alors je nage vite. Lorsque j'atteins la surface, mon cœur est au bord de l'explosion et mes poumons en feu. Je regarde autour de moi. Les quelques personnes au bord du bassin applaudissent. J'imagine que nous avons réussi finalement. Je me retourne prêt à partager cette joie avec toi. Mais tu n'es pas là. Alors je vois ces mêmes personnes s'agiter et 2 d'entre elles sauter dans l'eau avec leur masque. Il y a un problème. Je demande un masque moi aussi et replonge. Ce que je vois au fond du bassin me fiche sur place. Autour de la capsule, 3 plongeurs s'activent. Je sens un haut le cœur me soulever la poitrine, mais ce n'est pas le moment de flancher. Être astronaute, c'est aussi garder son calme en toutes circonstances. Soudain, je me souviens que l'épreuve s'appelle de sang-froid. Et je comprends ce qui est en train de se passer. Peut-être suis-je le seul testé aujourd'hui. Peut-être que tu es de mèche pour simuler un problème et que ma réaction à cette simulation sera scrutée sous tous les angles. Oui, c'est forcément ça. Je remonte pour reprendre ma respiration et j'exige avec la plus grande fermeté que l'on m'équipe immédiatement en oxygène. Cela prend 30 secondes et puis je plonge de nouveau. Lorsque je parviens au niveau de la capsule, je comprends qu'il ne s'agit en aucun cas d'une simulation. Car je te vois, toi. Toi, que 2 plongeurs tentent d'oxygéner tandis que le 3e s'active sur les sangles. Ces sangles qui t'ont retenu prisonnière. Alors je m'approche, je te regarde mieux, et soudain un détail me frappe, me vrille le bide, me broie le cœur. Les bulles, il n'y en a pas. L'un des plongeurs maintient l'oxygène dans ta bouche, mais aucune putain de bulle ne sort. Je commence à suffoquer. J'ai besoin de remonter, mais je ne peux pas. Je reste là, à fixer sur ma rétine cette image qui ne partira plus jamais. Cette image qui, je le sais, me hantera jusqu'à la fin de mes jours. La femme dont je suis fou, la seule femme pour qui j'ai jamais éprouvé quoi que ce soit de comparable, gît au fond de cette piscine d'entraînement. Les tentatives de réanimation n'y changeront rien. À l'instant où je t'observe, suffoquant de tristesse dans mon masque de plongée, je sais déjà que tu es morte. J'ai l'impression de me noyer, moi aussi. Alors je me raccroche à ce qui aurait pu être, à cette autre vie dans laquelle tu serais encore là, ton sourire lumineux éclairant mes jours. Et si je ne t'avais pas laissé prendre l'autre siège? Et si j'avais été plus attentif à toi dans cet instant de panique? Et si j'étais resté à tes côtés jusqu'à m'assurer que tu étais bien détaché? Et si je n'avais pas été si troublé au début de l'expérience, aurais-je pris conscience bien plus tôt qu'il nous fallait sortir? Des si à l'infini. Et mon cœur en mille éclats. Les images insoutenables prises sous l'eau montreront que tes sangles étaient, à cet instant, impossibles à détacher. Sur la vidéo, on te voit en apnée tenter de t'en dégager à plusieurs reprises, puis mettre tes deux mains sur la porte pour te hisser, te faufiler entre les sangles. C'est à ce moment-là que la porte se referme, t'assommant d'un grand coup sur la tête. C'est à ce moment-là que tu perds connaissance et que ton corps tente soudain de respirer dans un réflexe de survie qui te sera fatal. Ayant assisté au drame, j'étais parfaitement conscient que si responsabilité il y avait, elle était du côté d'une défaillance technique ou d'un problème de contrôle du matériel avant l'exercice. Mes supérieurs de la NASA auraient dû assumer. Mais la CIA et le contexte géopolitique en ont décidé autrement. En 1975, l'image de l'armée américaine dans le monde était désastreuse. L'enlisement de la guerre du Vietnam et les atrocités commises là-bas par ses soldats l'ayant sérieusement endommagé. A contrario, la conquête de la Lune avait permis à la NASA de conserver un important capital de sympathie dans l'opinion publique internationale. Les astronautes étaient le visage de l'Amérique. L'agence spatiale, sa vitrine éclatante de réussite, et nous étions en pleine guerre froide. Il était hors de question de donner du grain à moudre au bloc de l'Est et de mettre en péril l'aura de la NASA en admettant un quelconque dysfonctionnement. Face à l'image de l'Amérique, la vérité sur le décès d'une anonyme n'a jamais fait le poids. Alors en quelques heures seulement, pendant que nous autres, témoins de la scène, plongeurs, techniciens, candidats, militaires, étions maintenus à l'isolement, un dossier de suicide par noyade a été mis au point. D'après le médecin et les officiers t'ayant côtoyé, Julie, tu étais fragile psychologiquement. Une lettre manuscrite, reconstituée à partir de courriers écrits de ta main, évoque d'ailleurs ta détresse face à la pression d'un processus de sélection particulièrement exigeant. Détresse qui t'a finalement poussé à mettre fin à tes jours. Sur les 12 témoins tenus au secret défense, seuls Sharon, James et moi sommes encore en vie. 46 ans plus tard. Je suis devenue astronaute. James a rejoint les rangs de la CIA et Sharon, qui à son grand âme a été écartée des missions en orbite pour raisons médicales, occupe aujourd'hui l'un des plus hauts postes de la hiérarchie spatiale mondiale. En 1986, après l'accident de la navette Challenger, qui a coûté la vie à 7 de mes collègues, j'ai eu le malheur d'évoquer en interview l'existence de problèmes de sécurité au sein de la NASA remontant aux années 70. 3 mois plus tard, 2 femmes que je ne connaissais pas me traînaient devant les tribunaux avec un solide dossier à charge m'accusant de harcèlement sexuel. C'était un avertissement on ne peut plus clair. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'Amérique n'a jamais apprécié les traîtres.